Voilà pour cette deuxième partie aujourd'hui du cours sur la gladiature. Alors, il y a 15 jours, j'ai traité de la première partie des jeux avec les chasses, le supplice des condamnés à midi et le combat de gladiateurs l'après-midi. Et ensuite, j'en étais à mon deuxième point. J'avais commencé l'attrait de la gladiature, qui étaient les gladiateurs. Voilà, j'en étais là. Donc pour aujourd'hui, je vous propose de terminer. Ce sera assez rapide parce que j'ai quand même bien développé. L'attrait de la gladiature, une discipline particulièrement réglementée. Et dans une dernière partie, ben, c'est la mise à mort qui était attendue quand même dans ces jeux. Donc la mort en face. Je vais revenir sur les idées reçues sur la fin du combat. Et après, une petite analyse, pourquoi les Romains aimaient tant ces jeux particulièrement sanglants. Ouais. Et ensuite, je passerai à une deuxième partie, un nouveau PowerPoint que je n'ai pas encore mis sur le site, où je vais essayer de vous expliquer les débuts et la fin de la gladiature. À quelle époque c'est né, pourquoi c'est arrivé à Rome et pourquoi un 5 siècles de gladiature après complètement terminé. Voilà, et je terminerai par une petite visite du Colisée, rapidement. Donc je démarre pour cette deuxième heure de cours sur les gladiateurs. Donc j'en étais à la... Qui étaient les gladiateurs et pourquoi ils s'engageaient? Alors pour cela, j'avais utilisé la thèse d'un normalien dont je vous ai parlé, Georges Ville. Voilà, j'en suis là, exactement. Sur la gladiature, parce que les romans du 19e comme Covadis et les péplums du 20e comme Spartacus, Gladiator, etc., nous ont donné des idées assez fausses sur qui étaient les gladiateurs et comment ils combattaient surtout. Donc ce Georges Ville, qui était un ancien normalien, un archéologue et un conservateur du musée du Louvre, dans les années 1970, a beaucoup travaillé sur l'iconographie des gladiateurs parce qu'on a retrouvé énormément de lampes à huile, de médaillons, de mosaïques, de bas-reliefs qui représentaient les combats de gladiateurs. Donc cet archéologue-là a fait une thèse. Elle est très intéressante, je vous ai dit, on peut la trouver sur Internet. Vous n'avez qu'à taper le titre de sa thèse, « La gladiature en Occident, des origines à la mort de Domitien ». Et Georges Ville est mort dans un accident de voiture, et c'est son grand ami, l'historien Paul Venn, auquel je fais toujours référence parce que c'est mon historien romain préféré, enfin romain non, l'historien moderne préféré, qui a édité la thèse. En 1981, il a fait paraître. Donc, il y a aussi un livre qui est paru. Voilà. On la trouve sur le site Percée, qui édite des publications scientifiques, archéologiques, etc. Donc, on peut la trouver facilement. Bon, il y a énormément de pages. C'est assez complexe à lire, mais elle est très intéressante. Voilà. Et Georges Ville est là. Il a combattu les idées reçues. Alors la première que j'avais développée, je vous avais dit la dernière fois qu'à partir de -73, les gladiateurs n'étaient plus des esclaves. C'était des gens libres de combattre. Et ils combattaient parce qu'ils le voulaient bien. Voilà, ça c'est sa première idée majeure. Et c'était toujours des professionnels, très très exercés. Alors, la révolte de Spartacus en -73 a fait peur aux Romains. Parce que jusqu'à Spartacus, les gladiateurs étaient souvent des esclaves qui avaient un physique nécessaire pour le combat et qui étaient pris comme gladiateurs, qui étaient entraînés excessivement. Et en 73, à Capoue, dans le sud de l'Italie, dans Spartacus, qui était dans une école de gladiateurs, un esclave surentraîné, s'est révolté avec 70 autres gladiateurs. Ils se sont échappés de l'école de gladiateurs, du Ludus, là, je vous rappelle. Ils se sont échappés de l'école et ils se sont réfugiés sur les pentes du Vésuve. Et ils ont fait venir avec eux des dizaines de milliers d'esclaves qui se sont échappés de la région, qui les ont rejoints. Et l'armée romaine, il a fallu plusieurs légions pour arriver à bout de Spartacus et des esclaves révoltés. Il a fallu 2 ans et plusieurs légions romaines pour les vaincre, parce qu'ils étaient surentraînés. Et ils ont entraîné les autres à combattre, évidemment. Donc à partir de -73, les Romains ont peur de ces esclaves brimés et surentraînés, que sont les gladiateurs. Et donc le recrutement va changer. Voilà. À partir de là, celui qui combattait sait qu'il voulait, le voulait bien. Alors, ça, c'est la première idée que Georgeville a combattue lui aussi. Deuxième idée de la thèse de Georgeville, sur la gladiature, Georgeville dit que c'est une discipline très institutionnalisée, avec une réglementation précise. Donc, pour lui, les gladiateurs, ce sont des professionnels très exercés. Alors, je remets là mon petit schéma, vous vous rappelez ? Le gladiateur est recruté par un lanista. Alors, lanista, le sens premier en latin, ça veut dire un boucher. Vous comprenez, il achète de la viande, en quelque sorte. Le lanista fait un contrat avec le gladiateur. Il se passait un contrat entre eux. Et celui qui voulait donner des jeux, voulait donner des journées de jeux, c'était l'éditeur. Donc lui, il achetait ou il louait au lanista les gladiateurs. Voilà. Donc j'en ai parlé la dernière fois, du riche mécène qui sponsorisait ces journées de jeux qui coûtaient très 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 cher. Voilà. Donc le gladiateur ne combattait pas n'importe comment. Chaque gladiateur avait un armement précis et ne changeait jamais. Et ils combattaient avec des règles très précises également. Alors, je vais vous montrer ce que j'avais préparé. Alors, non, c'est pas ça. Ça, on l'a déjà vu. Excusez-moi. Voilà, j'ai pris la photo d'un médaillon. Alors, ce médaillon, il se trouve au musée de Nîmes. Il s'appelle le médaillon de Cavillargues parce qu'il a été trouvé dans une petite bourgade du Gard, Cavillargues, à côté de Nîmes. À Nîmes, il y a un amphithéâtre qui date de l'époque romaine. On a retrouvé beaucoup de médaillons, de lampes à huile qui représentent les gladiateurs et aussi beaucoup de stèles funéraires qui montrent le nom des gladiateurs, le nombre de combats qu'ils ont faits, où il est mort, etc. Vu qu'il y avait les arènes de Nîmes, bon, il y a eu des morts. Donc, si vous allez au musée de Nîmes, qui se trouve dans la maison carrée, il y a des choses très intéressantes à voir. Dans ce médaillon de Cavillargues, il représente 2 gladiateurs en train de combattre. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est regarder, il y a 2 arbitres, là et là. Donc, ce n'est pas un combat n'importe comment, c'est un duel. Il n'y a pas 36 gladiateurs qui se battent en même temps dans l'arène. C'est un duel très réglementé. Alors, je vous avais un petit peu parlé du vedettariat des gladiateurs. Là, il y a une inscription, ainsi que là, qui donne le nom des gladiateurs. Alors, celui de droite, il s'appelle Eros, très joli, l'amour en grec. Et celui de gauche, c'est Xanthos. En grec, Xanthos, ça signifie blond. Le Caes, c'est une abréviation de Caesaris. Donc, ça veut dire que Eros appartenait à une troupe de gladiateurs qui était sûrement à l'empereur, Caesaris, de César. D'accord ? Lui aussi, il était de la même troupe. Et ensuite, il y a un chiffre, c'est le nombre de combats qu'ils ont gagnés. Là, 16. Et celui-ci, 15 victoires. C'est leur palmarès. D'accord ? Parce que les gladiateurs, je vous l'ai dit, étaient de véritables vedettes. ils étaient libres d'entrer, de sortir, d'aller dans la ville de Rome comme ils voulaient. Ils habitaient le Ludus, l'école de gladiateurs, qui se trouve derrière le Colisée. C'est le Ludus Magnus, la grande école de gladiateurs. Ils avaient un renom dans Rome, un vedettaria, en quelque sorte, comme nous, nos joueurs de foot, par exemple. Dans le Ludus, ils pouvaient vivre avec leurs concubines, puisqu'ils ne pouvaient pas se marier. Ce n'étaient pas des citoyens. Et leurs enfants, qui rentraient, allaient, venaient comme ils voulaient. D'accord ? À chaque combat gagné, on leur jetait du haut de l'arène, l'éditeur leur jetait une bourse d'or, de pièces d'or. Donc il y avait un enrichissement du gladiateur très rapide. Bon, si évidemment il ne mourait pas rapidement aussi, c'était le risque. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'il y a eu un tel attrait pour la gladiature. Ils signaient un contrat et puis voilà, il y avait des combats à faire. Et ils étaient surentraînés, ils étaient entraînés toute la journée, comme nos sportifs, comme nos grands sportifs. Voilà. Donc je voulais vous montrer sur ce médaillon la présence des arbitres. Sur chaque mosaïque où il y a un gladiateur, il y a un arbitre en général, où il y a un combat. Et ensuite, je voulais vous montrer la spécificité des gladiateurs. Parce qu'ils combattent, ils étaient toujours entraînés avec la même arme, ils ne changeaient jamais. Alors le combat que les Romains appréciaient le plus, c'est celui-ci. Je vais vous expliquer les différents types de gladiateurs. C'est le rétière avec le trident. Vous voyez, le trident, il se termine là. Normalement, il a un filet aussi, le rétière. Mais il a certainement dû le jeter, le filet, et il ne l'a plus. Et il n'est pas arrivé à capturer son adversaire dans le filet. Donc là, le combat continue avec les armes. Et le gladiateur de droite, ben, c'est celui qui est souvent opposé au rétière parce qu'il a un casque, vous voyez, avec cette crête-là, arrondie, qui permet au filet de glisser et de ne pas l'attraper. Quand le rétière va lui jeter son filet par-dessus, il n'a qu'à baisser la tête avec son casque et le filet glisse. Voilà. Donc lui, il est armé d'un gros, grand bouclier pour se protéger et d'un glaive qu'on ne voit pas derrière. Voilà, donc tout ça pour vous montrer que c'est très spécifique, que le gladiateur ne combat pas... Enfin, les duels obéissent à des règles très précises, institutionnalisées. Voilà. Alors, je vous ai fait un petit schéma des différents gladiateurs. La diapo d'après, bon, on y voit pas mal, je savais pas qu'on y voit pas. Donc, rétière, en latin, rété, c'est le filet. Est-ce que je peux mettre ça là? En italien, la rete, c'est le web, c'est la toile. Donc, le rétière, il combat avec un filet et un trident. Il a un poignard aussi. Voilà, c'est un mot. Là, c'est une mosaïque de la Villa Borghese à Rome. Vous voyez l'arbitre derrière toujours. Le rétière, là, il a perdu son filet à nouveau. Et il combat le secutor, celui que vous avez vu sur le médaillon de Cavillargues, qui a le casque à la crête arrondie. Un secutor, ça veut dire en latin celui qui poursuit. Sequor signifie poursuivre. Donc le secutor, il a le casque à la crête arrondie, il a le grand bouclier, bon, il a le glaive, je l'ai oublié dedans. Ouais. Hop, pardon. J'ai acheté un petit truc là, mais je n'arrive pas à le manier encore. Il est protégé, le secutor. Oh, bon, je crois que j'arrête. Il a une manica, voilà. Et à la jambe aussi, à la jambe gauche, il a une ocrea. Dans ce couple, la rétière et secutor, c'est celui que les Romains préféraient. Il faut qu'il y ait une espèce d'enjeu. Donc, le rétière, il combat de loin avec son trident. Il peut l'immobiliser facilement, il peut le blesser, le secutor. Et puis, il y a le jeu du filet également. Un autre gladiateur célèbre, c'est le deuxième à gauche, le Mirmillon. Or, il ressemble fort au secutor, mais il a un casque plus anguleux. Je vais essayer quand même. Ouais, ça va. Voilà. Pareil, le filet glisse sur ce casque quand même. Il a un grand bouclier et un glaive. Donc il n'y a pas grande différence avec le sécutor. C'est juste le casque. Alors myrmillon, en grec, murmullo, c'est un poisson. Donc le myrmillon, il avait sur son casque un poisson gravé, un petit poisson gravé. Voilà. Autre gladiateur, le Thrace, qui est souvent aussi confronté au myrmillon ou au rétière aussi, qui peut être confronté au rétière. Il a un glaive recourbé et un bouclier beaucoup plus petit. Alors le glaive recourbé au 1er siècle après Jésus-Christ fait place à un glaive avec deux lames tranchantes des deux côtés. Donc lui aussi était assez efficace. Alors je vais vous montrer un Thrace dans le film Spartacus. Ah, ça marche. Voilà, le film Spartacus de Stanley Kubrick. Il montre un seul combat de gladiateurs à l'école de Capoue, près de Naples. Et le combat, il est pas trop mal. Il suit bien les règles de la gladiature. Il est pas trop mal mis en scène. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir là? Un rétière, filet, trident. Il a une protection au bras. Là, tout va bien. Et puis Spartacus, c'est lui, il représente un gladiateur Thrace. Petit bouclier, ça c'est exact. Manica pour protéger la main droite. Le glaive à double tranchant, là aussi. Mais qu'est-ce qui manque là? Eh oui, il manque les casques. Et la protection, hein, Spartacus, il n'a pas de créa. Voilà. Alors pourquoi il manque les casques, si vous avez vu le film? Personne.
Déjà pas caché la vedette d'Hollywood.
C'est ça. Ce sont des dames, des riches matrones romaines qui vont à l'école de gladiateurs de Capoue assister à un spectacle privé. Et elles demandent à choisir deux gladiateurs, enfin des pères, il y a plusieurs pères quand même. Elles demandent à choisir des gladiateurs, donc derrière une grille, voilà, elles vont choisir les gladiateurs. Donc elles choisissent les plus beaux spécimens, excusez-moi, c'est à peu près ce qu'elles disent. Et elle demande à ce qu'ils aient le minimum d'équipement pour admirer les muscles, sûrement. Tiens, j'en profite pour dire que les deux auteurs que je cite là, qui ont écrit des textes satiriques, c'est-à-dire qui se moquent un peu des mœurs des Romains de l'époque, surtout Juvénal, dit qu'à l'école de gladiateurs, souvent il y avait des entrées et des sorties de dames de la haute société. Voilà, qui aimait bien venir voir les gladiateurs. Bon, donc là dans le film, bon, voilà, on reprend cette petite histoire là que je viens de vous raconter. Les dames choisissent les pères de gladiateurs, c'est pour ça qu'ils ont un équipement assez minimaliste qu'ils ne devraient pas avoir. Voilà, peut-être le dernier gladiateur que je n'ai pas traité. Alors celui-là, il est moins fréquent. L'Oplomaque, il combat avec la lance. Bon. Mais je rappelle, le duel le plus attendu des Romains, c'est celui-ci. Hein. C'est le rétière contre le sécutor. Voilà. Donc, les gladiateurs, je reviens à ma deuxième idée de Georgeville, ils étaient vraiment conditionnés pour ne faire que ce combat. Ce n'était pas n'importe quoi. Alors, je vais revenir un petit peu là. Voilà, j'en suis là. Une réglementation très précise avec l'arbitrage et l'équipement spécialisé. Alors maintenant, je vais vous parler de la fin du combat. Donc, selon Georgeville, il y avait très peu de morts directes. C'est-à-dire que dans le duel, il y avait très peu de gladiateurs blessés à mort. Il pouvait être blessé, mais pas blessé à mort. Et je vous l'avais dit l'autre fois, à l'époque d'Auguste, donc premier siècle, début du 1er siècle après Jésus-Christ, Georgeville a compté un gladiateur sur 10 qui connaît la mort après la décision de celui qui a payé les jeux. Donc 1 sur 10 à peu près. Bon, peu à peu, ce chiffre va croître, hein, d'accord? Sous Auguste, 1 sur 10. Parce qu'il y a la demande de grâce que je vais vous expliquer. Mais sous Marc Aurèle, un siècle après, c'est presque 10 sur, pas 10 sur 10, mais presque. Il y a une barbarisation des jeux. Donc, la fin du combat, qu'en est-il? Alors, je reviens à mon médaillon. Là, il y a un petit écriteau qui a les deux mots latins que je vous ai dit. Stantes missi. Ça veut dire que quelqu'un demande, en fait, qu'il soit gracié, renvoyé, stantes, debout. Ça veut dire que dans ce combat, aucun des deux ne sera mis à mort. Le vaincu ne sera pas mis à mort. Alors, si le vaincu n'est pas mis à mort, c'est qu'il a très bien combattu. Il a enthousiasmé le public. Donc, il aura la grâce. Voilà. C'est pour ça que 1 sur 10 connaît la mort à l'époque d'Auguste. Donc, que pouvait-il se passer? Il y avait trois solutions. Soit le gladiateur était blessé à mort dans le duel. Je vous ai dit que c'était très rare. Bon. Soit, alors là, il y a une pierre tombale à Nîmes qui dit qu'un gladiateur est mort, mais avant de mourir, il a tué l'adversaire. Donc, il pouvait s'entretuer. Ça pouvait arriver très rarement également. Voilà. Et l'issue la plus fréquente de ce duel, ben c'est le tableau de Jean-Léon Gérôme, même s'il est exagéré. C'est un gladiateur qui arrive à vaincre, à immobiliser son adversaire, comme dans le Spartacus de Kubrick, là. Le rétiaire, il va immobiliser Spartacus, qui ne pourra plus combattre avec son trident. Voilà. Et le vaincu dirige ses regards vers celui qui a payé les jeux, vers l'éditeur. L'éditeur dirige ses regards vers la foule et c'est la foule qui va décider. Soit il est gracié, donc c'est la missio. Voilà, la missio, donc il est gracié. Missio, ça veut dire il est renvoyé. Donc pour l'éditeur, c'est très bien, hein, il a payé très cher au Lannista son gladiateur, c'est un capital, il pourra recombattre. Soit le peuple demande la mise à mort rare et l'éditeur accepte, parce qu'il faut quand même le contenter, ce peuple, il vient là pour ça, pour voir des mises à mort. Donc soit, et l'éditeur crie jugula, jugula, en vous, la jugulaire, d'accord? Donc qu'est-ce qui va se passer? Le vainqueur égorge le vaincu. Soit par derrière en se retournant, en donnant un coup là, soit devant. Et ce que les Romains attendent, ce qui est curieux pour nous, c'est le visage du vaincu face à la mort. Voilà, c'est ce qui est attendu. Et le gladiateur, il est aussi exercé pour vaincre stoïque, enfin, pour passer stoïquement ce moment. Donc le visage ne doit rien refléter. Il est exercé pour ça également. Pour arriver là. Alors ce fameux tableau de Jean-Léon Gérôme qui fait polémique un petit peu, je vais vous expliquer pourquoi. Donc il date de 1872, il n'est pas en France, il est en Arizona, dans le musée de Phoenix. Alors le réalisateur du fameux film Gladiator aurait eu l'idée, Ridley Scott, il aurait eu l'idée du film Gladiator en allant visiter ce musée, et en s'arrêtant devant ce tableau. Donc, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas? Je vais vous faire un petit commentaire. Bon, il est particulièrement, c'est un chef-d'œuvre admirable, là, je ne reprends rien du tout. Mais je vais vous montrer quelques points positifs et quelques points négatifs du tableau. Les raies de lumière, oh mince, excusez-moi, je n'y suis plus là. Bon. Laissez-moi, pour que je m'exerce à la maison, c'est tout nouveau. Donc j'en étais à ma gladiature 1. Voilà, c'est bon, il ne faut pas que je me trompe de bouton. Regardez comme ce tableau est très bien étudié. Vous voyez les raies de lumière? C'est le voile qui se trouvait au-dessus du Colisée. C'est les panneaux de tissu. Donc il a eu l'idée de les faire refléter là. Ça, il servait à protéger le public du soleil, puisqu'on est en région méditerranéenne, à Rome il fait très chaud. Donc les raies de lumière, c'est le vélum, c'est le voile. Je vais vous en parler tout à l'heure dans la visite du Colisée. Ensuite, qu'est-ce qui est admirable? Il y a des bas-reliefs là. Alors bon, on peut pas, je ne veux pas grossir. Les bas-reliefs, là, ce qui est représenté, c'est exactement un bas-relief qui a été retrouvé archéologique. Là. Ça, c'est admirable. Bon, l'aigle de Rome, ok. Les vestales, vous savez, les prêtresses de Vesta, dont j'ai parlé à mon premier cours, qui avaient le droit de venir au jeu des gladiateurs, qui ont leur couvent en plein centre-ville de Rome, sur le Forum, d'accord, la maison des Vestales, et qui sont habillées de blanc, bon, qui ont une vie assez sympathique. Leur seul problème, c'est qu'elles sont célibataires, elles sont vouées à la virginité. C'était la mère de Romulus, je vous avais expliqué, qui était une Vestale. Mais comme c'était le dieu Mars qui était venu la voir, ça passe. Normalement, si elles sont prises en flagrant délit, d'accord, elles sont amurées vivantes. Mais ça ne s'est jamais produit. Aucune n'a été prise en flagrant délit. Donc, à nouveau, un point admirable, les Vestales, là, qui demandent la mise à mort. L'empereur, certainement, qui est l'éditeur des jeux, qui a payé les jeux. Voilà, là. La loge impériale, là aussi, c'est magnifique. Regardez le détail sur le casque, il a un poisson. Vous voyez là? Donc, c'est un mirmillon. Normalement, le poisson est sculpté, mais Jean-Léon Gérôme, il l'a mis en relief. Normalement, il est sur le casque, il n'est pas là. C'est un mirmillon, il a le casque anguleux. Voilà. Donc là, tout va bien. Il a l'ocréa, le glaive, l'ocréa, la manica. Alors maintenant, bon, mais je critique. Qu'est-ce qui ne va pas par rapport à la thèse de Georges Ville? Il a tué plusieurs personnes, donc ce n'est pas possible. Voilà. Ensuite, le vaincu, bon, il est là. Alors, le vaincu, vous voyez, il tend le pouce, enfin, il tend l'index, là. Et c'est pour demander la grâce, la mission. Et normalement, lui, il doit regarder l'éditeur, il ne regarde pas les Vestales. Bon, après, il va peut-être tourner le regard. Voilà. Et il attend la mise à mort. Alors, on ne voit pas le visage. Hein. J'ai agrandi le tableau, mais là, on ne voit pas. C'est sûr. Alors, qu'est-ce qui est faux aussi, c'est cette histoire de pouce-là. Alors, ce tableau, il s'intitule Polyche en latin, verso. C'est un ablatif absolu, ça signifie le pouce renversé. Mais bon, renversé, point d'interrogation, parce que verso en latin, du verbe verto, ça signifie juste diriger. Ça ne signifie ni en bas, ni en haut, ça signifie juste, voilà, le pouce est dirigé. Il demande sa grâce et les autres dirigent le pouce vers le bas. Alors, bon, dans tous les péplums, ça signifie la vie, ça signifie la mort. Alors, chez les Romains, ce n'est attesté nulle part. Bon, déjà, il n'y a pas de traité de gladiature, donc on est sûr. On devine juste avec les médaillons, les lampes à huile, les mosaïques, comment ça se passait. Et donc, Georges Ville, là, il soutient que le Polyche verso, mais c'est pas ça. Je vais vous expliquer. Le vaincu fait un geste d'appel à la grâce, ok. Et donc le peuple et l'éditeur décident. Voilà. C'est ce qui est intéressant pour eux. Donc dans les textes, c'est le peuple fait un geste avec le pouce, tourne le pouce, mais il tourne le pouce quand il veut la mort. Mais il ne tourne pas vers le bas, il fait un simple geste, d'accord? Et ce serait ça, Polyche verso, dans le tableau. Le pouce tourné, c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation à renverser vers le bas. Donc, cette expression que Jean-Léon Gérôme a prise pour intituler son tableau, il a prise dans une phrase, il y a une seule occurrence dans la littérature latine, c'est Juvénal, c'est un poète latin, qui a écrit, je vous l'ai dit tout à l'heure, des satires, des petites poésies qui se moquent des mœurs du peuple romain. Et dans les satires, il y a une phrase là que je suis allée chercher, qui dit « Quand le peuple l'ordonne, le pouce tourné, ou le pouce tendu, on ne sait pas, les riches éditeurs font tuer les gladiateurs pour se faire bien voir. » Voilà. C'est tout ce qu'on a dans les littératures latines pour l'histoire du pouce tourné. Alors bon, d'après Georges Mille, si le pouce du public est tourné là, c'est la mort. Alors vous allez me dire, mais alors comment le peuple dit c'est la vie? Comment le peuple dit nous faisons grâce? Voilà. Alors là aussi, il y a une phrase tirée d'un deuxième poète, un peu comme Juvénal, c'est un poète satirique aussi, c'est Martial, à la même époque, hein, tous les deux, qui a écrit des épigrammes, c'est des petits poèmes, pareil, qui se moquent un peu des Romains. Et Martial dit que chaque spectateur avait un bout d'étoffe de couleur à la main. Et donc, Georges Ville, notre normalien, là, il pense que le bout d'étoffe, c'était le spectateur l'agitait quand il voulait faire grâce, voilà, quand il voulait la mission. C'est tout ce qu'on a qui puisse nous éclairer sur ce geste. Donc, bon, le tableau de Jean-Léon Gérôme, il est intitulé « Le pouce renversé ». Mais est-ce que c'était vraiment le geste des Romains? Voilà, on n'en sait trop rien, c'est pour ça que je ne veux pas m'y engager. Donc voilà pour ces combats de gladiateurs. Alors dans un dernier point, bon, je me suis demandé pourquoi ça les fascinait autant, parce qu'il y avait quand même horreur et fascination à la fois dans ce spectacle. Parce que bon, les Romains, ce sont des hommes tout de même. Voilà, c'était un plaisir qui allait les faire trembler, un meurtre en direct, qui les attirait, qui les glaçait certainement à la fois. Tout de même. Alors j'ai trouvé trois raisons à peu près. La première, ce serait c'est Cicéron qui dit ça. Cicéron, c'est un homme politique célèbre, qui disait que les Romains allaient admirer le courage des gladiateurs parce que ça leur rappelait le courage des soldats qui avaient combattu dans les provinces romaines. Hein. Donc on allait admirer le courage. Voilà, ce serait le premier argument que je donnerait sur cette fascination des jeux. Le deuxième, c'est l'attrait du sang, parce que quand même, on allait voir couler le sang, qui coulait quand même fortement. L'attrait du sang, à l'instant de la mort, bon, donc nous aussi, on regarde des films d'horreur, on regarde des films de guerre. Quand il y a un accident sur l'autoroute, il y a des badauds, parce que c'est l'attrait du sang. On va voir une corrida, en sachant que le torero peut très bien mourir. Voilà, on va voir les courses de Formule 1. Là aussi, le pilote, il prend des risques. On sait bien qu'il peut se passer quelque chose. Ayrton Senna est mort. Et le dernier argument, ce serait le pouvoir de faire mourir quelqu'un, puisque en tendant le pouce, puisque je vous ai dit que c'est pas le pouce renversé, en tendant le pouce, on ordonne la mise à mort de quelqu'un. Ça aussi, ça peut être un des attraits de ces spectacles. On a une interaction. Ça m'a un peu rappelé, vous savez, comment on appelle ça, la télé-réalité où chaque spectateur vote pour... je le fais partir ou je le garde. Là, bon, c'est plus dangereux, mais ça reviendrait à ça. Il y a une espèce de... Le public participe au spectacle. Voilà. Donc, le gladiateur, c'était un type humain, une vedette à la fois adulée, mais aussi, il y avait quand même une répulsion par rapport à cet assassin qu'il était. Voilà. Par exemple, le gladiateur n'était pas enterré, n'avait pas le droit d'être inhumé. Enfin, si, il était inhumé. Pourquoi j'ai dit qu'il n'était pas enterré? Il était inhumé à part, voilà, pas avec la population. C'était comme la prostituée à Rome, l'acteur de théâtre aussi, il n'était pas inhumé dans la même enceinte que le citoyen. Même à l'époque de Molière, hein, vous savez bien, le comédien, il était exclu de ça. Bon, mais là, il faisait peur quand même pour le laisser aussi loin. Voilà pour mon premier cours. Alors, j'embraye rapidement sur les débuts et la fin de la gladiature. Je vous ai préparé un autre PowerPoint, je le mettrai sur le site ce soir. Comment cette institution est-elle arrivée à Rome? Et comment a-t-elle a disparu en 5 siècles. 5 siècles de gladiature, je vous le rappelle. Voilà. Bon, ça va être plus succinct comme cours. Les débuts de la gladiature, bon, ça remonte à des duels de héros. Alors, dans l'Iliade d'Homère, quand Patrocle meurt, hein, Patrocle c'est le grand ami d'Achille, le grec. Patrocle meurt tué par Hector, le Troyen. Eh bien, à ses funérailles, il y a des duels à côté de son bûcher. Donc il y a deux héros qui combattent, c'est Ajax et Diomède, mais pas à mort. C'est juste un combat, pour un rite funéraire pour remémorer la valeur du héros qui est mort. Ouais. Donc première trace de ces duels sans mise à mort, qui ne sont pas sur un champ de bataille, c'est dans l'Iliade d'Homère. Donc ça remonte très loin. Alors en Italie, il y a des traces de rituels funéraires de combat qui apparaissent début du 4e avant Jésus-Christ, donc dans les années 300 et quelques. D'accord ? Donc ce rite funéraire de l'Iliade va arriver en Italie. Donc quand il y aura l'enterrement d'une personnalité, sur sa tombe, il y aura des combats, des duels organisés. Après, la première trace écrite, c'est Tite Live, l'historien romain dont je vous avais parlé à mon premier cours, qui dit qu'en moins 264, à Rome, sur le plus ancien forum, là où on vendait les bœufs, le forum Boarium, eh bien, il y a eu ces premiers jeux funèbres, ludi funebres, je vous l'ai mis en latin, sur une tombe, voilà, c'est attesté, lors de funérailles. Alors, il raconte que c'est un riche romain, un patricien, qui est décédé et son fils, en son honneur, fait combattre des paires de gladiateurs, mais sans mise à mort, bien sûr. Alors maintenant, ça va passer peu à peu en spectacle. À moins 216, sur le forum romain, à côté du forum Boarium, premier jeu, premier mounous, il y avait 22 paires de gladiateurs qui se sont rencontrés. Là, c'est attesté aussi. Alors, en moins d'un siècle, là, milieu deuxième, les spectacles deviennent fréquents, ça devient de véritables spectacles. Milieu deuxième, Rome a vaincu Carthage, donc Rome ramène, comme je vous l'ai expliqué l'autre fois, les animaux exotiques. Donc, apparaissent les chasses. Et apparaissent, vous vous rappelez, les damnationes ad bestias, les spectacles de midi quand on met les condamnés devant les bêtes féroces. Voilà. Donc, milieu deuxième avant Jésus-Christ. Et je vous en ai parlé un petit peu la dernière fois à mon cours. Jusqu'alors, vous vous rappelez, il n'y a pas d'amphithéâtre en pierre à Rome. Il n'y a que des amphithéâtres provisoires en bois qui sont montés sur les forums. Toujours pas d'amphithéâtre de pierre, je vous avais dit, le Sénat a peur un petit peu de ces gladiateurs, ils se souviennent de Spartacus. Alors le premier qui a été construit, la première trace qu'on ait, c'est pas à Rome, c'est à Capoue, à côté de Naples, qui aurait été construit fin 2e avant Jésus-Christ. Alors il y a des vestiges de ce premier amphithéâtre, mais vraiment des vestiges, parce qu'un autre a été construit après à Capoue. Pourquoi à Capoue ? Parce qu'il y avait l'école célèbre de gladiateurs de Spartacus. Et à Rome, il faut attendre le premier amphithéâtre de Statilius Taurus en moins 37, en dur. Il était sur le champ de Mars, on pense, mais on n'a retrouvé aucun vestige. En pierre, là. Et après, je vous rappelle, le Colisée, c'est tardif. Hein, je vous l'ai dit la dernière fois, le Colisée, c'est un 79 après Jésus-Christ. Ouais. Donc Rome se méfie un petit peu de ces jeux. Le Sénat se méfie surtout. Il ne faudrait pas qu'il y ait une deuxième révolte. Voilà, à partir de là, deuxième siècle, premier siècle avant Jésus-Christ, puis après, premier, deuxième après Jésus-Christ, les jeux, toute la journée, comme je vous les ai décrits, il y en avait fréquemment à Rome. Les Romains aimaient beaucoup ça. Ah oui, j'ai oublié mes petites fresques de la proto-gladiature. On a retrouvé dans une nécropole des fresques en Campanie, à côté dans la région de Naples, qui montrent ce rite funéraire de combat de gladiateurs. Alors pourquoi elles sont si bien conservées? Parce que c'est dans une nécropole. C'était sur les murs de nécropole. Alors vous voyez, les gladiateurs, ils ressemblent plutôt à des soldats avec le casque à cimier là. Le gladiateur n'a pas ce casque là. Ça, c'est le casque de l'Iliade et de l'Odyssée. Ils ont des javelots. Voilà. Donc on appelle ça de la proto-gladiature. C'est les premiers gladiateurs qui combattent pour un rite, selon un rite funéraire, lors de funérailles de Romains. On a une deuxième là, avec des javelots, pareil, là, sans casque. Toujours, c'est les fresques de Paestum, de Campanie. Et après, je voulais vous montrer comment d'un théâtre on est passé à un amphithéâtre. Ben, c'est simple. Deux théâtres, d'accord? Donc, amphi, ça veut dire autour d'eux. Et théatron, en grec, c'est le théâtre. Donc, on a collé deux théâtres, tout simplement. Et ce qui a donné un amphithéâtre. Allez, un petit topo sur la fin de la gladiature. Et après, on ira voir le Colisée. Alors, milieu du deuxième après Jésus-Christ, ben, on retrouve beaucoup moins de poteries, de médaillons, de lampes à huile, de mosaïques. Bon, ça se raréfie. Troisième siècle après Jésus-Christ, Rome connaît des problèmes économiques. Donc, on ne va plus mettre des fortunes dans des gladiateurs. Premier, deuxième siècle après Jésus-Christ, Rome est très florissante, très prospère. Les riches mécènes mettent des sommes folles dans ces jeux du cirque-là, qui durent plusieurs jours d'affilée. Je vous en avais parlé la dernière fois. On va chercher des animaux exotiques, on paie les gladiateurs des fortunes. Voilà. Puis, problème économique du 3e après Jésus-Christ, les combats, peu à peu, se raréfient. Le christianisme aussi est apparu là. Donc, 3e après Jésus-Christ, un pape, Hippolyte, exclut de la communion les gladiateurs et l'impresario. Milieu 4e après Jésus-Christ, une loi interdit aux soldats de s'engager comme gladiateurs. Donc, c'était facile pour un soldat, l'attrait de l'argent, là, de la victoire, du vedettariat. Le soldat était très entraîné également. Il pouvait quitter l'armée et passer un contrat avec le lanista pour s'enrichir rapidement. Donc interdit ça aussi. Bon, les chrétiens, qu'en était-il par rapport à la gladiature? Les premiers chrétiens étaient contre tous les spectacles en général, pas seulement les gladiateurs. Les spectacles, les courses de chars, qui étaient aussi très prisées des Romains, et le théâtre. Pourquoi? Ben parce que ça détournait le chrétien du salut, de sa pensée au salut. Donc, les spectacles, c'était dangereux. Ensuite, les premiers théologiens chrétiens ont interdit aux chrétiens d'aller voir ces jeux sanglants. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'interdit du décalogue « Tu ne tueras point ». D'accord? Mais toujours, pas tellement par charité chrétienne envers ces pauvres gens qui allaient se faire tuer, mais parce qu'il y avait un interdit. Donc, tu ne tueras point, on ne va pas au spectacle pour obéir au décalogue. Et enfin, bon, l'esprit de douceur du christianisme s'est quand même répandu. Et ça a fait que les gens qui étaient traités de peureux et de lâches parce qu'ils n'allaient pas voir ces jeux sont devenus peu à peu des gens normaux. Mais aucun empereur romain n'a interdit les jeux de gladiateurs. Aucun. Même le premier qui s'est converti au christianisme, Constantin, en 310 après Jésus-Christ, Constantin ne les a pas interdits. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de la réaction des citoyens romains. Voilà. Alors j'ai trouvé une phrase, il a dit « Les spectacles sanglants en temps de paix ne nous conviennent pas ». Donc, selon Paul Veyne, là, mon historien préféré, que j'ai bien cherché, on ne sait pas comment les jeux... Enfin, on ne sait pas qui a interdit les jeux, puisque aucun... Ouais. que l'empereur les aurait interdits, ils se sont éteints peu à peu, d'eux-mêmes, au cours du quatrième. Or, les chasses ont perduré quelque temps, puis après, c'est extinction totale. Voilà. Alors, j'ai une petite dizaine de minutes. Je voulais vous parler du Colisée. Là, je vais remonter à la maquette de Paul Bigot de Rome, qui est un monument splendide, même si maintenant il n'en reste que des vestiges. Et la vue qu'on a maintenant du Colisée n'est pas du tout la vue qu'avait un Romain de l'amphithéâtre, parce qu'il est quand même bien abîmé. Voilà. Alors je vous le mettrai sur le PowerPoint. Je suis allée sur le site de l'université de Caen, qui a reconstitué une visite virtuelle de Rome. C'est fantastique, et surtout du Colisée. Alors, dans l'université de Caen, il y a une salle où on vous prête des sortes de lunettes, là, l'oculus. Et vous voyez, il n'y a pas que le Colisée, il y a le centre de Rome, de la Rome antique. C'est vraiment fabuleux. Et ce sont des chercheurs qui ont travaillé sur la maquette d'un premier archéologue, de celle-ci, là, de maquette. C'est Paul Bigot, c'est un historien français qui a réalisé cette maquette. Il a passé 36 ans de sa vie, je crois. Il y a aussi une très belle maquette d'un archéologue italien qui correspond à peu près. Vous voyez le Colisée, la place du Colisée. Bon, là, on voit très bien un aqueduc. Voilà. Donc, l'université de Caen a un site. On peut télécharger l'application. Je m'y suis amusée la semaine dernière. Alors là, j'ai fait des captures d'écran de l'application parce qu'il faudrait que ce soit un jeune qui est exercé aux jeux vidéo qui visite Rome, parce qu'on vous propose soit un joystick, là, le truc des PlayStation, là, vous savez, avec les boutons, soit on peut s'y balader avec les quatre touches directionnelles de l'ordinateur, mais il faut s'exercer. On vous dit appuyez sur majuscule, donc vous irez plus vite, mais après, hop, vous montez. Voilà, donc je m'y suis exercée une heure ou deux, j'ai eu beaucoup de mal. Donc j'ai pris des captures d'écran, voilà, ce sera plus simple, ça ne bouge pas. Mais sinon, c'est très intéressant à chercher. Dans mon dernier cours de l'année, je vais essayer de m'exercer pour vous montrer, parce que j'avais dit que je vous ferai une petite visite de Rome architecturalement dans les derniers cours. Voilà. Donc je vais vous montrer ça. Bon, ce qu'on en voit actuellement, là c'est la réalité, c'est ça. Voilà. Alors il y a eu des tremblements de terre, il y a eu des pillages, on a construit Rome avec des pierres du Colisée. Tout le marbre est parti, hein, d'accord. Si vous visitez Rome, ça m'est arrivé de voir dans des immeubles des carrés de blanc, de marbre blanc. Voilà, ça a été réutilisé pour construire, c'est du recyclage. Les gradins n'y sont plus. Les souterrains sont conservés. Celui de l'amphithéâtre de Capoue, de Pouzzoles, est bien plus. Les souterrains sont mieux conservés que ça. Là, il n'y est pas, mais actuellement, ils ont recouvert, ils ont mis un plancher là, d'un quart à peu près des souterrains, pour que les gens descendent sur la piste pour voir l'effet que ça pouvait faire. Bon, là, la photo que j'ai, il n'y avait pas le plancher. Donc là, c'était les salles de gladiateurs, j'en ai parlé la dernière fois. Les animaux qui étaient mis dans des cages, il y avait des systèmes de poulies qui faisaient que le plancher s'ouvrait, une trappe s'ouvrait, que le lion apparaissait, ou les gladiateurs. Pour la présentation, c'était un mécanisme fantastique. Mais bon, ça ne donne pas l'idée de ce que voyaient les Romains. Alors, que voyaient les Romains ? Vous allez. Bon, je remets la maquette pour vous montrer où je me situe. Vous voyez l'arc de Constantin, là. L'arc de triomphe le mieux conservé, là, qui est superbe. Je vais partir par là. Pour la visite virtuelle, on passe par la voie du triomphe des empereurs, là, qui passait sous l'arc. Voilà. Donc, je m'y mets. Oups. Voilà. Maintenant, l'arc de Constantin. Voilà. Donc, l'arc de l'empereur Constantin à côté du Colisée, et on franchit, je franchis l'arc, deuxième vue, j'arrive face au Colisée, et ce truc là, bizarre, c'était une fontaine. Alors, cette fontaine, elle s'appelait la Meta. Meta, ça signifie borne en latin. Meta sudans, c'est le participe présent du verbe sudo. C'est la borne qui sue, en quelque sorte, qui sue de l'eau, bien sûr. Alors, cette fontaine, elle coulait en permanence et elle permettait aux Romains de prendre de l'eau avant d'aller au jeu du cirque. Mais il y avait aussi des fontaines dans le Colisée. Voilà. Alors, cette fontaine, elle est restée à peu près debout jusqu'en 1936. Elle a survécu à 2000 ans d'histoire. Et je vais vous raconter pourquoi elle n'y est plus maintenant. Parce que Mussolini a voulu faire passer ses troupes, d'accord, comme les empereurs romains le faisaient. Et la fontaine, elle gênait. Donc, la fontaine n'a pas survécu à Mussolini. Donc là, il y a quelques vestiges, il y a quelques pierres en bas, mais c'est tout ce qu'on peut voir. Voilà, mais la fontaine était magnifique. Bon, les temples des dieux, je passe. Pourquoi on appelle cet amphithéâtre le Colisée? Parce qu'il y avait la statue colossale qui faisait 31 mètres de haut. Alors, c'était une statue que Néron avait commandée à son effigie. Elle était en bronze doré, creuse bien sûr. Mais Néron est mort avant que la statue soit achevée. Donc en fait, après, la statue a représenté l'empereur, tout simplement. Donc celle-là, elle n'a pas échappé, elle n'y est plus non plus, mais ce n'est pas Mussolini là. On n'a pas de vestiges. Donc l'empereur avait les rayons du soleil, là vous voyez. Il tenait un globe terrestre dans sa main et un gouvernail, puisqu'il gouvernait le monde, le globe qui représente le monde romain. Et le gouvernail, voilà. Donc ce Colosseum, là, cette statue colossale, a donné son nom au Colisée. Colosseum en latin, en italien Colosseo, d'accord, et en français Colisée. Voilà. Donc je continue la petite visite. Voilà ce que les Romains voyaient, eux, devant leurs yeux, quand ils allaient au Colisée. Alors bon, chaque arche contenait une statue qui ont disparu, évidemment. Qu'est-ce qu'on ne voit plus non plus? Bon, le marbre, on ne le voit plus, hein, c'est la pierre. Voilà. Autre chose qu'on ne voit plus, bon, c'était les cordages tout autour du Colisée qui soutenaient le vélum, le fameux voile en haut. Alors les bornes, il y a des vestiges de bornes. Bon, la borne n'est pas entière, mais il y a son implantation encore. Je crois qu'il y en a deux, si je me souviens bien. Mais c'est dans la partie du Colisée qui n'est pas debout, de l'autre côté. Alors, on n'y va pas en général. On reste à la partie qui est la plus admirable encore. Donc, le Colisée était entouré de bornes qui soutenaient des treuils, des poulies. Voilà. Et ces poulies, elles tendaient tous les mâts, elles tendaient tous les cordages. Et au-dessus du Colisée, là, en bois, il y avait des mâts de 10 mètres de haut qui portaient le vélum, qui portaient les pans de voile, qui étaient déployés par des marins. Alors, on faisait venir des équipes de marins qui montaient au sommet là, de ces mâts et qui arrangeaient le voile, qui protégeaient les spectateurs. Donc voilà, tout ça, ce n'est plus visible, évidemment. J'approche d'une entrée. Voilà, donc chaque arche permettait aux spectateurs, selon le petit jeton qu'il avait acheté, de se diriger à une des entrées du Colisée. Regardez, elles sont numérotées. Voilà. Donc sur le jeton du spectateur, il y avait écrit le chiffre de l'entrée par laquelle il devait passer. Les grilles de chaque côté, alors elles n'y sont plus les grilles bien sûr, mais on a retrouvé les empreintes des gongs là. Quand il y avait trop de spectateurs qui étaient rentrés par une entrée, parce qu'il fallait que ça aille très vite, vous rendez compte, 50 000 personnes à faire placer, on pouvait fermer les grilles d'un côté ou de l'autre pour que le spectateur entre dans l'arche d'après. D'accord ? Ces grilles, elles permettaient de fermer les entrées. Oui, j'ai pas dit le chiffre, alors... Souvent, on trouve 80 000. 80 000, c'est exagéré. Ce serait plutôt entre 50 et 60 000 spectateurs. pouvait contenir. Voilà. Donc les grilles, alors on avait son jeton, on savait qu'on était à l'entrée 58, là par exemple. Bon, on entrait, voilà. On avait un premier couloir circulaire là, où on a retrouvé des vestiges de fontaines. Regardez toutes ces fontaines là. Je vous rappelle qu'on va au jeu pour une journée. Il fait chaud, il faut aller boire. Voilà. Alors les fontaines, elles n'y sont plus, mais ils ont retrouvé les croix. Il y a les croix dans les murs, si vous allez visiter le Colisée, ça se voit, où il y avait les tuyaux. Voilà. Donc en reconstitution virtuelle, là, à chaque endroit où on a retrouvé l'empreinte des tuyaux, ils ont reconstitué une... Voilà. Alors ces couloirs, ça s'appelle des vomitoriums. Alors, ça m'a toujours fait rire dans les arènes de Nîmes, quand j'allais voir des spectacles, quand j'étais plus jeune, puisque je suis de cette région-là. Et donc sur le ticket que j'achetais, il y avait vomitoire. Voilà. Donc c'est un vomitorium, ça permet de vomir le peuple, de faire sortir, entrer rapidement, sortir rapidement. Voilà, donc on continuait là, et après là, on est arrivé à la piste. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on déplore quand on va voir le Colisée, on ne voit pas les gradins. Les gradins de marbre, eh bien, ils ont été réutilisés. Donc, dans la visite virtuelle de l'Université de Caen, là, on vous propose les premiers rangs avec des petits sièges en cuir bon, pour les sénateurs, les chevaliers, les hommes politiques. Il y avait les loges, elles étaient aux quatre points cardinaux aussi, là, elles ne sont pas représentées pour l'empereur, comme vous avez vu dans le tableau de Jean-Léon Jérôme. Et plus on montait, ben là, on avait le peuple, voilà, et en haut, les esclaves qui avaient droit, si le maître le permettait, et le payer l'entrée, à venir regarder les jeux du cirque. Alors là, on est bon, plus on montait, moins on voyait évidemment le visage du pauvre gladiateur qui allait se faire égorger. Alors là aussi, j'ai pris une vue des gradins des esclaves, tout en haut, là, vous voyez, là, la galerie, où on voit le moins la piste. Voilà, donc ils ont des bancs en bois. Et pourquoi j'ai pris cette vue? Le fameux vélum. Donc les bandes de tissu, elles se déployaient avec les poulies que je vous ai montrées à l'extérieur du Colisée. Elles se déployaient pour faire vraiment de l'ombre à tous les spectateurs. Alors c'est dommage, il n'y a pas de vue avec le vélum. Là, il y a le cordage, mais il n'y a pas le voile là, sur cette vue-là. Il fallait prendre la vue des gradins des esclaves pour le vélum. Voilà. Et pour finir, je vais vous montrer à l'arrière du Colisée, je vous en ai parlé, juste derrière le Colisée se trouvait le Ludus, la grande école Magnus des gladiateurs, voilà, où ils s'entraînaient, où ils vivaient. Alors je vais d'abord vous montrer une vue archéologique, mais vraiment il faut s'imaginer. Voilà, je suis derrière le Colisée là. Là, c'est l'enceinte de l'arène, parce que c'était une arène en miniature dans le Ludus. La même arène que le Colisée, mais en miniature, vous voyez. Donc là, évidemment, bon, il faudrait casser la rue et les immeubles d'après pour trouver tous les vestiges. Dans l'enceinte de l'arène, et là, il y a comme des petites pièces, c'était les chambres des gladiateurs. Mais il faut imaginer que les chambres de gladiateurs, elles étaient sur... Il y avait un étage aussi, là, en plus. C'était très, très grand. Alors, j'ai pris une reconstitution de l'arène du Ludus Magnus. Voilà, avec un gladiateur, des gradins bien plus petits évidemment, et derrière, mais là où vivaient les gladiateurs, vous voyez, voilà, les chambres des gladiateurs. Chaque gladiateur avait sa chambre, il pouvait avoir ses enfants, sa concubine avec lui, et y vivre. Bon, j'avais trouvé des chiffres là, qui sont assez parlants. Donc dans ce Ludus, il y aurait 60 personnes qui vivaient à peu près. Alors j'avais trouvé, ils ont trouvé un espèce de registre à un moment donné. Il y avait 24 gladiateurs, 12 gladiateurs blessés, soignés. Donc ça faisait 36 gladiateurs en tout. 5 entraîneurs, 5 personnes pour la cuisine, 5 personnes pour l'entretien, 3 personnes qui entretenaient les armes, un médecin et un masseur. Plus les femmes et les enfants. Les concubines des gladiateurs ne pouvaient pas trouver de travail à l'extérieur hein, parce qu'elles étaient elles aussi taxées d'infamie. Donc, elle travaillait certainement à la cuisine, etc. Voilà. Donc là, toute une vie. Et entre ce Loudus et le Colisée, alors là, je ne l'ai pas, la vue, il ne la proposait pas, on a retrouvé un tunnel. C'est-à-dire que les gladiateurs pouvaient sortir de leur habitation, de leur Loudus, et par un tunnel, arriver à l'entrée principale du Colisée, l'entrée d'honneur, là où par là où ils entraient. Voilà. Donc, ils pouvaient ne pas traverser la place qui les reliait au Colisée. Voilà, la petite visite du Colisée. Je vous invite, si vous êtes curieux, que vous aimez bien les visites virtuelles, c'est vraiment très bien fait. C'est l'université de Caen qui propose ça. Et là, au moins, on a une vue de ce qu'était Rome. Ce que je reproche toujours, bon, Monsieur Lens, tout à l'heure, me disait que quand on visite le Colisée, ils ont mis une maquette maintenant du Colisée. Moi, je ne l'ai pas vue. Mais bon, il y a toujours cette déception quand on visite le Forum romain aussi. Il n'y a que les vestiges des pierres en bas et on ne s'imagine pas tous les monuments qui s'y trouvaient. Et là, ça aide vraiment à se faire une idée de ce qu'était la splendeur de la Rome antique. Bon, l'arc de Constantin, il est encore très beau. Ça va. Voilà, merci de m'avoir écoutée.